Alors, pour une fois, je vais vous parler d'un livre sur la gestion des finances personnelles. Alors, en fait, c'est un livre qui est intéressant à plusieurs domaines. Le premier, en fait, c'est tout simplement qu'il est écrit comme une histoire. C'est vrai que souvent, en fait, quand on écrit un livre, on essaie de donner des conseils d'une manière un petit peu linéaire, d'une manière un petit peu pédagogique. Et là, en fait, ce livre est écrit de manière assez intéressante puisque c'est écrit comme des histoires. C'est-à-dire que ça raconte des histoires de Babyloniens qui leur arrivent de petites aventures, rien d'extraordinaire, c'est pas un roman d'aventure. Mais c'est pour expliquer comment on peut mieux gérer ses finances personnelles au travers de petites histoires de personnes qui vont chercher la fortune, à qui il arrive des problèmes, qui reviennent chez leurs parents et qui finalement arrivent à gagner de l'argent, etc. Et c'est vraiment intéressant parce que ça se lit tout seul comme une histoire et c'est vraiment ça que j'ai trouvé intéressant dans ce livre. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que ce livre a été créé en 1926, donc un livre écrit en 1926 par George David Samuel Clason. Et c'est vraiment intéressant parce que ces conseils de gestion restent encore vrais quasiment, allez, on va dire 100 ans plus tard, 1926, 2003, 2023 plutôt. C'est vraiment fou. Et donc ce livre, en fait, là, est disponible soit en format papier 188 pages, soit en fait en livre audio, ce que je vous conseille plutôt, puisqu'en fait c'est 3h19 de lecture audio que vous avez. Et ça se lit tout seul, en plus le narrateur est assez marrant. Donc en fait, c'est un bouquin qui est assez intéressant. Alors, donc je vais quand même spoiler un petit peu, donc je vais vous faire un petit résumé des grands principe que j'ai retenu de ce livre. Alors, il faut vous dire que c'est pas un livre qui va vous donner une trace immémorable sur comment bien investir votre argent, les trucs et astuces d'investisseurs, etc. Mais c'est en fait quelque chose qui sont des grands principes qui restent encore vrais 100 ans plus tard. Et c'est ça qui est bien, c'est qu'en fait, ce deux conseils simples, on va dire, qui permettent à quelqu'un qui n'a pas eu d'éducation financière de commencer en fait à bien gérer son argent et à bien gérer ses finances personnelles. Alors c'est un petit peu dans le même style que Père riche, père pauvre de Kawasaki, mais c'est un petit peu plus facile à lire et beaucoup plus agréable puisqu'en fait on raconte véritablement des histoires. Alors, si on doit retenir quelques points, c'est le premier, c'est les trois piliers pour devenir riche entre guillemets. Alors, je dirais que c'est pas le but du livre, c'est pas de vous indiquer comment devenir riche, mais comment mieux gérer votre argent. Je pense que ce serait ça qui est le plus intéressant. Mais c'est vrai que comme ça raconte des histoires, il parle vraiment de l'homme, que l'homme le plus riche de Babylone. Alors, ce bouquin-là, ce qui est un petit peu embêtant par contre, c'est qu'il raconte souvent un petit peu les mêmes choses. Alors, d'après ce que j'ai compris, l'auteur du livre a résumé en fait ses plusieurs conseils ou séries d'histoires dans un seul livre. C'est pour ça en fait qu'il y a un peu de répétition. Néanmoins, s'il y a trois grands piliers à retenir, c'est quelque chose d'une évidence. Mais d'abord, c'est vivre avec moins que de ce qu'on gagne. Bon, voilà. Il précise en fait qu'il faut économiser 10% de ce que l'on gagne pour investir ensuite cet argent dans quelque chose qui va générer des revenus récurrents. Alors, pour cela, il conseille tout simplement soit de monter un business à côté, soit de trouver un travail ou un business qui va vous permettre d'être rémunéré à votre performance. Puisqu'en fait, il indique que lorsqu'on est salarié, malheureusement, souvent on atteint un plafond de verre à un moment donné, et en fait, on n'arrive pas à gagner plus que les performances normales. Et donc tout simplement pour aller au-delà de cela, eh ben il nous conseille d'aller tout simplement avoir un travail qui permet d'être rémunéré à la performance au travail que vous allez mettre et à la volonté et à vos performances individuelles. Donc voilà. Il dit par contre que il faut pas forcément se priver et qu'il faut tout simplement garder certes ces 10% d'économie, mais au-delà de ces 10% d'économie, faut se faire plaisir parce qu'autrement après ça devient une frustration. Deuxième point également du bouquin, une évidence quand même, mais c'est n'investir que lorsque l'on connaît en fait le secteur ou lorsque l'on connaît un vrai expert du secteur. Parce qu'il dit souvent qu'il y a trop de personnes qui se disent soi-disant experts, et c'est vrai qu'on l'a vu un peu trop souvent sur Internet, et en fait ces gens-là, ils connaissent pas plus que ça, les investissements en crypto-monnaie, trading, etc., etc. Bref, tous ces gens-là qui vous donnent des conseils sans jamais avoir des preuves de leur réussite, faut pas leur faire confiance, tout simplement. Troisième chose, c'est l'effet cumulé. C'est, il dit tout simplement de faire fructifier ses économies sur le long terme, parce qu'il dit très bien que c'est vrai que on peut investir sur des livrets, des comptes bancaires, et ça suffira pas pour gagner de l'argent. Et pour eux, en fait, au lieu d'investir son argent dans ces moyens qui vont générer peu de revenus, il vaut mieux créer des revenus qui vont créer un effet cumulé, en particulier via de l'immobilier, via de l'investissement des entreprises, parce qu'en fait, ça permet d'avoir un revenu supplémentaire qui va s'accumuler au fil du temps. Et Et pour devenir riche, avoir une bonne gestion personnelle, ce qu'il explique, ce qui est vraiment plus important, c'est créer des routines, c'est-à-dire des habitudes de vie, des habitudes d'économie, hein, 10% de son salaire, etc., dans la durée. Et c'est des petites choses comme ça, de manière déterminée, qui permettent ensuite de réussir des grandes choses. Pour lui, en fait, il donne également dans son livre 7 recettes pour se désendetter. Alors, c'est encore du bon pour principe de bonne gestion, néanmoins je vous les donne quand même. Le premier, c'est économiser encore une fois 10% de ses revenus. 10% de son revenu, quelque part, ça ne change pas radicalement son rythme de vie, mais ça aide à construire en fait sa fortune et à mieux gérer son argent parce que ça permet d'avoir comme ça une petite sécurité, pouvoir après investir avec un apport minimum. Deuxième chose, c'est contrôler ses dépenses. Puisqu'en fait, il explique, et ça je l'ai constaté moi aussi, hein, que plus on gagne de l'argent, plus en fait on dépense. Et c'est vrai que c'est la nature humaine, ben, quand on a plus de moyens, on assouvit ses désirs, on essaie de se faire plaisir, etc. Le problème, c'est qu'en fait, ben, si on fait tout ça, ben, plus on va gagner, plus on va dépenser. Lui, bien sûr, il ne nous dit pas d'économiser encore plus, mais tout simplement de se dire, voilà, on reste toujours dans cette loi de 10% du salaire économisé et de se poser tout simplement la question, est-ce que j'en ai vraiment besoin? Et bien sûr, c'est de faire un petit budget et analyser où va son argent. Et c'est vrai que moi, je l'ai déjà fait à titre personnel, c'est pour me dire, bah tiens, qu'est-ce que je dépense quand j'ai mon revenu là? Qu'est-ce que je dépense là-dessus? Quels sont mes gros points de dépenses? Et bah, qu'est-ce que je peux optimiser? C'est vraiment très simple à faire et je vous invite à le faire. Troisième point, faire fructifier ses économies via des revenus récurrents. Ben, il explique en fait que un argent qui est sur un compte bancaire ne rapporte pas, au contraire, il perd de l'argent avec l'inflation. Donc en fait, il rappelle bien que avoir de l'argent disponible sur un livret, sur un compte, en fait, ça permet pas de générer des revenus complémentaires, ça permet, voire même, ça permet de perdre de l'argent parce qu'un argent qui dort ne rapporte pas. Il faut qu'il rapporte et que ça, entre guillemets, ça devienne, comme il dit, un esclave. Voilà, et que ce store rapporte encore plus d'or. Quatrième point, il faut commencer petit au départ et pas chercher des rendements généreux. C'est vrai que c'est souvent tentant pour les investisseurs débutants, c'est de commencer à chercher la bonne affaire. J'en parle toujours, crypto-monnaie et compagnie, marketing de réseau, les investissements boursiers avec une action qui est super bonne et on investit beaucoup, beaucoup dessus. Moi, je l'ai fait également. C'est pas forcément ce qui fonctionne le mieux. Il vaut mieux chercher un rendement petit, moyen, plutôt que chercher quelque chose d'exceptionnel parce que souvent, bah, qui dit rendement exceptionnel dit risque, ou alors bah, tout simplement bah, c'est un faux rendement et c'est un risque trop important et c'est de la spéculation pure. Cinquième point, soignez votre logement et achetez dans un logement dans le bon endroit. Ça, c'est vrai que il vaut mieux acheter son appartement et le louer parce que ça reste encore plus vrai en France avec le système des exonérations de taxes lorsqu'on vend son habitation principale, en particulier si on a bien rénové et bien ben, retapé. Sixième point, anticipez vos revenus et votre vieillesse. Tout simplement, il dit, ben voilà, il faut pas se contenter de ce que pourrait nous verser l'État. Il dit, voilà, faut créer un revenu complémentaire et avoir quelque chose qui est un revenu récurrent. On en parle encore de l'immobilier ou d'autres choses qui va tout simplement pouvoir générer du business lorsque vous serez moins en activité, puisque ben, quand on n'est plus en activité, parfois on se retrouve à 60% de son revenu précédent, voire moins. Et donc, en fait, il faut vraiment anticiper les choses. Septième point, augmenter ses revenus, donc gagner de manière plus précise de l'argent, et bien tout simplement, c'est mettre en place un plan d'action. C'est ce que Georges Samuel Clason appelle cultiver ses propres pouvoirs, c'est-à-dire que se former, devenir meilleur dans son domaine, devenir une référence, et ainsi avoir plus de visibilité, espérer de changer d'entreprise, changer de boulot, ou devenir un expert dans son domaine si on a son propre entreprise. Il explique également qu'il ne faut pas compter sur la chance. Trop de personnes, en fait, comptent sur la chance pour réussir à dire ouais, je vais gagner au loto, je vais jouer au loto, etc. Ou alors, au contraire, des gens qui disent non, mais si je réussis pas, c'est parce que je n'ai pas de chance. Et donc, en fait, ils attendent une rencontre, un business miracle, etc. Or, en fait, il explique qu'il vaut mieux commencer tôt, investir jeune, avec un petit investissement, et ne surtout pas remettre à plus tard ses investissements. Et ça, je suis 100% d'accord, parce que moi, j'ai commencé à investir quand j'étais assez âgé, et c'est vrai que si je l'avais su, j'aurais fait bien avant, puisqu'en fait, plus tôt on le fait, ben, plus tôt ça rapporte. Voilà. Il faut aussi, par contre, prendre des risques. Il explique qu'il faut ne pas écouter les gens qui ne connaissent rien, mais il dit également que ben, il faut pas non plus hésiter parfois à prendre des risques et prendre des décisions rapides. Alors, ça veut pas dire faire n'importe quoi, mais ça veut dire, comme dire, consulter des experts, des gens qui s'y connaissent et qui ont déjà des résultats prouvés là-dessus, mais également faire un business plan. Et c'est comme ça, en fait, qu'on peut réussir à faire du business. Il expliquait toujours, hein, c'est 10%, investir avec des personnes qui s'y connaissent et faire de l'argent avec des du revenu récurrent. Et c'est vrai qu'il explique aussi quelque chose qui est très intéressant dans son livre, c'est que souvent, les gens qui ont une fortune qui est acquise rapide, elle part aussi vite. Et c'est vrai que c'est ce qu'on voit avec les nouveaux riches, les héritiers. Ils ont tout d'un coup beaucoup de budget, beaucoup d'argent, mais ils n'arrivent pas à garder cet argent parce que justement, ils n'ont pas cette éducation financière. Ils vont sur cette partie, un gros investissement, mauvais investissement, mauvais conseil, etc., etc. Et c'est comme ça, en fait, que l'on arrive à bien investir. Et parfois, il donne aussi un conseil qui est assez intéressant. C'est si vous gagnez, commencez à gagner un petit peu d'argent, vous avez un investissement, et qu'on vous propose, tiens, investis dans ma boîte, aide-moi à monter tel truc. Mais il explique que finalement, il faut pas forcément écouter comme ça les personnes et céder un petit peu aux émotions, mais qu'il faut un petit peu rentabiliser les choses et rationaliser les choses. C'est-à-dire que si quelqu'un vous demande de lui prêter 5 000, 10 000 euros, rappelez-vous qu'on ne doit pas prêter ou emprunter à la légère et qu'il faut se dire que c'est en empruntant de l'argent, on va risquer de prendre en fait le fardeau des personnes. Et il faut se dire que donc la personne doit être capable de vous rembourser, bien entendu, mais surtout faire attention à la solidité du business. Donc avoir un business plan et rappelez-lui que le temps que vous avez mis à économiser, les efforts que vous avez mis à économiser, et que si vous avez économisé pendant 10 ans cette somme-là, vous n'allez pas la prêter comme ça parce que c'est tout simplement un investissement de toute une vie. Et si vous n'allez pas, si la personne n'est pas capable de rembourser en un an ce que vous avez mis 10 ans à vous rembourser, selon son business plan, et à ce moment-là, ça ne marche pas. Voilà. Dernier point, il raconte également une histoire intéressante. Comment s'en sortir lorsqu'on est endetté? C'est l'histoire de Tarkad qui demande à Dabazir des conseils et il explique encore une fois, 7 dixièmes des revenus doivent être dépensés pour le quotidien. Donc 7 dixièmes de ses revenus pour vivre au quotidien, nourriture, logement, etc. 2 dixièmes pour rembourser les personnes à qui on doit de l'argent de manière équitable et 1 dixième toujours d'économie pour ses investissements. Et le but, en fait, c'est de maintenir ces pourcentages même si ses revenus augmentent ou baissent. Et c'est s'habituer à vivre avec 70% de ses revenus. Alors, ça va paraître très compliqué. Je pense que c'est pas facile pour beaucoup de monde, surtout lorsqu'on n'a pas beaucoup d'argent. Néanmoins, c'est vrai que c'est un bon principe de dire que on va vivre en situation dégradée pendant un certain temps pour, entre guillemets, rembourser son argent. Alors donc voilà, donc je trouve que ce bouquin-là, c'est pas le meilleur bouquin d'éducation financière que j'ai lu, c'est pas non plus le plus complet. Ce qui est intéressant, c'est que ça se lit vraiment comme une histoire, et cet aspect storytelling, je trouve que on le voit pas suffisamment souvent dans les livres. Souvent, c'est des guides et des choses comme ça. Là, le fait de le raconter sous la forme de petites histoires, de petites anecdotes, est vraiment intéressant et ça permet de donner un petit peu de visibilité. Le seul truc qui est vraiment moyen dans ce livre, c'est un, les conseils simplistes, deux, le fait que finalement on se répète beaucoup, et le trois, en fait, que ce soit relativement court. Donc voilà, c'est facile quand même à regarder. Néanmoins, si vous n'avez encore jamais lu de livre sur la gestion des finances personnelles ou sur tout simplement une bonne gestion de son argent, je vous conseille ce livre. C'est un bouquin vraiment facile, vous pourrez le lire facilement. Vous pouvez l'écouter en livre audio sur Audible, hein, ça coûte 9,95 euros. Et pourrez l'écouter comme ça directement dans les transports ou pendant un temps mort, vous verrez, c'est quelque chose qui se lit extrêmement facilement. Si vous voulez aller plus loin, il y a deux autres bouquins qui sont intéressants. Alors, je dirais le cran juste au-dessus, mais pas beaucoup plus au-dessus, c'est Père riche, Père pauvre de Kiyosaki, qui est un livre de base aussi sur l'éducation financière. Et après, vous avez le dernier livre qui s'appelle Les secrets d'un esprit millionnaire de T. Harv Eker, qui est un peu plus élevé, qui explique en fait pourquoi en fait on gagne de l'argent et pourquoi on ne gagne pas de l'argent. C'est un petit peu le fait d'être un peu plus à l'aise avec l'argent et de mieux gérer son argent et de ne pas en fait arriver comme ça à dépasser certains plafonds de verre qui sont à notre niveau. Donc ces trois bouquins pour moi sont un peu complémentaires. Le premier est plus simple, L'homme de plus riche de Babylone. Le deuxième un peu plus évolué, Père riche, Père pauvre de Kiyosaki. Troisième bouquin qui est un peu plus avancé, c'est Les secrets d'un esprit millionnaire. Voilà, j'espère que ce petit résumé vous aura bien plu et je vous souhaite une très bonne journée.